Ça fait 10 ans effectivement qu'on n'était pas arrivé à avoir un taux de chômage inférieur à 9%. Donc c'est une très bonne nouvelle. C'est dû notamment aux réformes du marché du travail qui commencent à produire leurs effets. On en attend plus tard. Ça veut dire que oui, il y a une possibilité de vaincre le chômage de masse. Continuons.
Ainsi parle Muriel Pénicaud. Bon, la ministre du Travail, pas fan du commentaire de chiffres, ça elle l'avait dit, hein. Sauf quand ils sont bons. Allez, il y a exception. Et c'est vrai, ça fait 10 ans que ça ne nous était pas arrivé. Nous passons enfin sous la barre symbolique des 9% de taux de chômage. Avec de vrais progrès, les jeunes hommes qui n'arrivent pas à trouver un emploi, ils sont moins nombreux. Il y a aussi plus de CDI signés. Il y a aussi beaucoup plus de contrats à temps complet. Oui, réjouissons-nous. Quant à dire que ce sont les réformes qui commencent à porter leurs fruits, là c'est peut-être un peu tôt ou alors trop tard. Parce qu'en réalité, la baisse du chômage, elle date de 2015. Et la réalité, c'est que le chômage, il a baissé d'abord parce que la croissance a repris. Sortie de crise, besoin de bras. Notre souci aujourd'hui, c'est que ce rythme, il ralentit. En fait, il y a 11 ans, début 2008, la France, elle était à 7,2 de taux de chômage. C'est dire qu'il reste du chemin à faire, le chemin le plus dur, d'autant qu'il faudrait maintenant ramener les non-diplômés, les chômeurs de longue durée, les plus éloignés de l'emploi, vers le boulot. Ils sont le noyau dur de ce chômage de masse. À Bac plus 2 ou 3, on est déjà plus protégé. Et à Bac plus 5, eh bien là, c'est le plein emploi.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bienvenue, le Mag Écho démarre tout de suite. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Avec en régie Coyen Guyenne, le réalisateur, Mao de Butler, notre attaché de production. Et à la technique, c'est Julien Dumont qui nous accompagne. Ce matin au programme du Mag, tout ce qu'il faut savoir sur les nouvelles privatisations souhaitées par le gouvernement, Engie, le groupe Aéroport de Paris, la Française des Jeux. Le texte est au Parlement et on va faire le tri entre tous les arguments économiques, historiques, idéologique, stratégique. Je salue donc les débatteurs de ce samedi. Bonjour à vous, Philippe Mabille.
Bonjour Alexandra et bonjour à tous.
Le directeur de la rédaction de l'hebdomadaire La Tribune, vous nous arrivez avec une nouvelle formule, un format grand, voilà, XL pour La Tribune.
La Tribune, c'est à la fois le numérique sur Internet, le quotidien économique que vous connaissez, et un hebdomadaire que nous avons transformé, une nouvelle formule en grand, effectivement. On était en tabloïd historiquement, et pour la deuxième fois de notre histoire, nous passons en berlinois, qui est le même format, allez, on va dire que Le Monde, pour ne citer que, un format aussi avec deux cahiers. Alors l'originalité, c'est le premier cahier.
C'est la page de pub de Philippe.
Voilà, c'est un cahier qui dit l'économie se transforme, et un deuxième cahier
qui parle des régions.
Les solutions sont dans les territoires. Vous voyez, c'est très opportuniste avec l'époque que nous traversons.
Allez, la radio qui soutient la presse, ça se trouve en kiosque, ça coûte 3,50 €. La presse, c'est aussi Alternatives Économiques, 4,90 € le
oui,
mensuel.
Oui, pour le mensuel. Et
bonjour,
puis aussi,
Christian Chavagneux.
L'abonnement numérique, bonjour à tous.
Christian, Philippe, on se retrouve dans 20 secondes pour le débat. L'actualité ce matin, ce sera aussi l'Allemagne qui vient de frôler la récession économique. Vous entendrez la correspondance de Ludovic Piétenu. En France, pourquoi les fermetures de magasins de vêtements se multiplient-elles? Reportage d'Anaël Verzo. Notre invité à 9h45, ce sera Stéphane Israël, le PDG d'Ariane Espace. La concurrence est rude pour l'Europe face aux nouveaux conquérants de l'espace, les Américains, les Chinois. Comment maintenir notre champion européen? Rendez-vous en deuxième partie d'émission. Et bonjour à vous, Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra.
Ma vie au boulot, ça va nous ramener sur Terre. Ça, c'est Patrick qui nous pose une bonne question sur l'assurance chômage.
Et oui, une question sur les contrats d'usage. Comment limiter ces contrats à durée déterminée très spéciaux?
Oui, c'est qu'est-ce que c'est un contrat d'usage?
Ben, je vais vous raconter.
Tout à l'heure, juste avant 10h, tout de suite. Le prix de nos biens communs au Sénat cette semaine, les privatisations nous ont fait un beau débat.
12 février 2019.
Et oui, je maintiens.
Bruno Le Maire.
Que les privatisations d'ADP, d'Engie, de la Française des Jeux.
Ministre de l'Économie.
Que ces cessions d'actifs est une nécessité absolue pour financer le fonds pour innovation de rupture de 10 milliards d'euros qui nous permettra d'investir dans l'intelligence artificielle et dans les technologies nouvelles.
Nicolas Sarkozy, promis jury craché.
Marie-Noëlle Lindemann.
Vous avez promis que jamais il ne fallait privatiser le secteur du gaz, tellement ce secteur était essentiel.
Sénatrice GRS.
Je ne vois pas pourquoi, 14 ans plus tard, le secteur du gaz est devenu moins stratégique. Au contraire, on sait que dans la diversification et la transition énergétique, ça va avoir un rôle important et déterminant.
Il y a eu la privatisation des autoroutes.
Martial Bourquin.
Un désastre financier.
Sénateur PS.
ADP, c'est un monopole d'État. On privatise une rente d'État, il faut dire, c'est 117 milliards que l'État avait régulièrement.
Moi, je suis convaincu que la privatisation d'ADP, la cession d'actifs, est une bonne chose.
Ronan Lescure.
Là encore, pour entrer dans le 21e siècle.
Député LREM.
Il faut financer l'innovation. On n'est plus là pour être assis sur des dividendes qui viennent de centres commerciaux, parce qu'en gros, c'est ça un aéroport.
Aucune garantie, Sophie Prima,
n'a été apportée sur les mécanismes de cession des actifs à court, moyen et long terme.
Sénatrice LR.
Qui peut en effet dire quel sera le sort d'un futur acquéreur privé opéable une fois, deux fois, 10 fois dans les 70 prochaines années? Qui sera maître du jeu dans le ciel français?
Si on regarde les aéroports, c'est très intéressant.
Mathieu Plane.
La spécificité, elle est européenne. On a 75% du trafic qui est dans les aéroports privés en Europe.
Économiste à l'OFCE.
Par contre, aux États-Unis, ils sont tous publics. En Moyen-Orient, ils sont essentiellement publics. Aujourd'hui, nous, on se désengage au moment où les autres ont plutôt tendance à se réengager.
Si on en arrive à vouloir privatiser la Française des Jeux.
Jean-Marc Daniel.
C'est qu'on a finalement écoulé pas mal de bijoux de famille.
Économiste.
C'est-à-dire qu'on commence à avoir peu d'entreprises à privatiser. Les gros paquets sont passés. Il reste encore EDF qui a un très gros paquet. Mais on commence à rentrer dans des entreprises un peu bizarres.
Un peu bizarre, qu'est-ce qu'il veut dire? Pas bizarre, on va en parler. Les privatisations, ça se passe en ce moment au Parlement. Et si l'actualité sociale n'était pas si forte, on en débattrait sans doute plus dans l'actualité. Cette semaine au Sénat, les sénateurs ont choisi de retoquer 2 privatisations sur 3. On va y revenir, mais d'abord Christian Chavagneux, je voudrais que vous nous racontiez, que vous nous fassiez le point comme d'habitude sur cette loi Pacte et ce qu'elle dit en termes de privatisation.
Alors la photo, l'État détient 50,63% pour être précis du capital d'Aéroports de Paris. Hein, Roissy, Orly, Le Bourget, puis plein de
dossier numéro 1, ADP.
Dossier numéro 1, ADP. Et dossier numéro 2, l'État détient aussi 70% de la Française des Jeux qui a le monopole pour les jeux de hasard, même s'il y a un petit peu de concurrence avec les jeux en ligne. Et puis Engie, donc ce fournisseur de gaz, dont la loi nous dit qu'il doit absolument toujours détenir au moins un tiers du capital. Alors vous regardez, et en fait, l'État a 24% du capital. Comment on peut avoir un quart quand la loi vous oblige à en avoir un tiers? C'est qu'il y a une loi qu'on appelait la loi Florange qui fait que si vous gardez les actions pendant 2 ans, vous avez un droit de vote double. Ce qui fait qu'avec ça, la part des actions qui sont un peu gardées par l'État, l'État a 34,8% des droits de vote. D'Engie, ouf, on est sauvé. Est-ce que ces entreprises, elles sont intéressantes ou pas? Vous faites les comptes, Engie verse à l'État environ 500 millions de dividendes par an. ADP autour de 120, 130 millions, ça dépend des années. La Française des Jeux autour de 100 millions. Au total, donc vous avez des monopoles publics, pour les deux premiers en tout cas, ADP, la Française des Jeux, Engie, qui rapporte entre 700 et 800 millions par an de dividendes. Ça, c'est la base chiffrée. Et puis on va voir ce que le gouvernement va en faire. Donc la loi Pacte dit, il faut donner tout ça au privé.
La loi Pacte dit, il faut descendre. Qu'est-ce qu'elle dit, Philippe Mabille? Elle dit, il faut privatiser complètement, que l'État se retire complètement, ou est-ce que l'État peut garder, dit qu'il veut garder
En tout cas, ce gouvernement-là, et si on écoute le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, lui, il dit, il faut tout vendre. Il dit, l'État régalien, oui, mais l'État qui est propriétaire pour ADP de commerce et de boutiques de luxe, parce qu'aujourd'hui, un aéroport, c'est certes un actif stratégique, et on pourrait revenir sur qu'est-ce qu'on vend vraiment, parce que ADP c'est pas une vraie privatisation, en fait c'est une délégation de services publics, ça ressemble un peu à ce qui a été fait sur les autoroutes, mais effectivement est-ce que l'État a vocation à être le propriétaire de boutiques de luxe, en plus dans un monde concurrentiel? Sur Engie, objectivement on n'est plus au 20e siècle, Engie est aujourd'hui en concurrence avec tous les grands acteurs mondiaux de l'énergie, donc est-ce que l'État doit garder une part du capital? Peut-être. Est-ce que l'État doit être majoritaire au capital? C'est une autre question. Et puis sur la Française des Jeux, alors là, je reconnais, moi je suis un peu troublé, je trouve que c'est peut-être celle qui est la plus surprenante, parce que la Française des Jeux, vous savez bien, c'est quand même un vrai sujet, l'addiction aux jeux, c'est un vrai risque. Alors là, on pourra, et je pense qu'on va pouvoir le débat sur la régulation, parce que ce qui est au cœur, en fait, du sujet, aujourd'hui, les privatisations, c'est effectivement, il y a de moins en moins d'actifs à privatiser, Jean-Marc Daniel le disait très bien, aujourd'hui, vous parliez des dividendes, c'est l'attrition, hein. C'était 4,5 milliards globalement, budgétairement, en 2013, 3,5 en 2016, on est à 2,8 milliards en 2017, ça va être sans doute... Alors, effectivement, c'est des entreprises rentables, Mais est-ce que cette rentabilité est suffisante par rapport à un État qui n'a pas forcément les moyens d'investir? C'est ça un peu la question qui est posée aujourd'hui. C'est plus pragmatique qu'idéologique à mon sens.
Alors oui, c'est ça l'idée de fond. Est-ce que vous êtes d'accord, Christian Chavagne? Qu'est-ce que c'est que cette tête? Pourquoi l'État veut-il privatiser?
C'est une bonne question,
par pragmatisme, hein. Nous dit Philippe Mabi, plus que par idéologie. C'est donc, c'est quoi le...
Oui, non, mais on peut défendre la rationalité économique, mais quand vous regardez...
Mais pourquoi il veut cet argent, l'État? On l'a pas encore dit.
Pourquoi il veut cet argent?
Pour financer un fonds d'innovation.
L'État nous dit, on va récupérer 15 milliards de tout ça, d'accord? 5 milliards... Alors, il faut savoir que les recettes de privatisation, ça rentre pas dans les recettes budgétaires, au sens de la comptabilité européenne. Donc, vous pouvez pas dire, j'ai des recettes budgétaires en plus, ça va diminuer mon déficit budgétaire. Donc, vous réduisez la dette. 5 milliards, je vous rappelle que la dette publique française, c'est 2300 milliards. Donc, on va dire que c'est un peu insignifiant. Les 10 milliards, vous avez raison Alexandra, on va créer un fonds pour l'innovation de rupture. On va pas donner 10 milliards, on va les placer. On espère que ça va rendre à peu près, ça va rapporter 250 millions d'euros pour un fonds d'innovation de rupture. Je vous rappelle mes chiffres de tout à l'heure, ce sont des entreprises qui rapportent à l'État entre 700 et 800 millions qu'on va vendre pour placer l'argent, espérer récupérer 250 millions. Si vous trouvez de la logique économique là-dedans, vous m'appelez, je vous donnerai mon numéro de portable parce que c'est complètement débile. Pour le reste, vous avez la Banque publique d'investissement, vous avez la Caisse des dépôts et ses multiples fonds qui financent déjà l'innovation. Est-ce qu'on a besoin d'un fonds supplémentaire pour financer l'innovation? Non, on n'a pas besoin d'un fonds supplémentaire et on va perdre de l'argent puisqu'on n'aura plus que 250 millions sur quelque chose qui nous en rapportait 700 à 800 millions. Où est la logique économique?
Alors, Philippe Mabille.
Moi là-dessus, je suis en total désaccord. Vous avez vu, la Chine a annoncé un plan qui s'appelle Made in China 2025.
Oui.
C'est des dizaines de milliards de dollars, équivalent euros, d'investissement dans l'intelligence artificielle, dans l'économie du futur, et ils disent clairement, les Chinois, on veut dominer le monde par la technologie. Est-ce que aujourd'hui, sur des activités concurrentielles qui peuvent rapporter de l'argent, l'État n'a pas plutôt, en France, je veux dire, n'a pas plutôt intérêt à mettre le paquet, à récupérer finalement ces sommes qui sont un peu immobilisées dans des activités qui pourraient tous aussi bien gérées par le privé, pour aider cet investissement massif dans les technologies et les métiers du futur, parce qu'on parlait d'emploi tout à l'heure, mais si on veut des métiers demain, il faut aussi ça. Je pense que on peut en tout cas comprendre la logique. Je pense que c'est pas une question idéologique, parce que le vrai sujet, on va sans doute parler un peu des autoroutes, parce que la raison pour laquelle le Sénat a retoqué, d'ailleurs de façon assez surprenante, puisque la droite et la gauche unies au Sénat ont retoqué la privatisation de l'ADP, c'est parce qu'on a un mauvais souvenir de la privatisation des autoroutes. Alors pourquoi un mauvais souvenir? En gros, c'est sous Villepin que ça se passe. Ça va un peu commencer déjà un peu avant sous Jospin. Mais faut dire, là aussi, la droite et la gauche, ils ont tous privatisé, hein, il faut le dire. Mais c'est Villepin qui a fini l'affaire. Ça a été probablement mal expliqué et peut-être pas très bien fait.
Alors allez-y, on a tous en tête le dossier autoroute, on va l'ouvrir.
Les sociétés d'autoroute ont été privatisées, ou plutôt concédées à un certain nombre d'opérateurs privés pour une durée jusqu'à 2032 avec une somme qui a touché l'État de 14 milliards. Alors effectivement, si vous mettez en face les dividendes, si vous actualisez les dividendes qu'on espérait sur cette durée, c'était 35 à 40 milliards. Donc on dit effectivement, est-ce que l'État, et donc nous les contribuables, nous sommes fait avoir? Alors c'est un peu plus compliqué que ça, parce que il faut aussi payer les travaux. Or, les concessionnaires d'autoroutes ont une obligation de payer les travaux. Donc il y a sans doute débat, puisque l'autorité de la concurrence l'a dit, sur la façon dont ça s'est passé, mais pour ADP... Ce qui est très intéressant, et dans la tribune, vous pourrez lire, le Bruno Le Maire le dit, il ne veut pas rééditer la même erreur. Quel a été le problème sur les autoroutes? C'est que l'État n'a pas la main sur les tarifs. Donc aujourd'hui, les autoroutes font ce qu'ils veulent. Avec on a essayé en 2015 de geler les tarifs, vous vous en souvenez, ça n'a pas été possible. Et en fait, ça a simplement reporté dans le temps. Sur ADP, l'État aura la main sur les tarifs, il y aura une révision tous les 5 ans. Il y aura un contrat de régulation qui sera extrêmement sévère pour éviter effectivement qu'il y ait des conséquences négatives pour les clients, notamment les compagnies aériennes en l'occurrence, et donc les clients des aéroports. Donc je pense qu'on a sans doute tiré les leçons de cette erreur des autoroutes, et la droite est un petit peu mal placée pour aujourd'hui critiquer des privatisations. C'est un peu les alcooliques anonymes, si vous voulez.
Sauf qu'il va se passer avec Aéroports de Paris ce qui s'est passé exactement avec les autoroutes. C'est-à-dire quoi? Vinci, vous savez, a racheté les autoroutes, et quand vous dépensez autant d'argent pour Aéroports de Paris, il va falloir lâcher quand même 8 à 9 milliards de C'est pas petit. Hein. Vinci est déjà propriétaire de 8% d'Aéroports de Paris, donc tout le monde dit Vinci va se positionner, va être l'entreprise qui va racheter beaucoup. Qu'est-ce qu'une entreprise? La pure logique économique, sans parler d'idéologie, il va falloir rentabiliser ces 8 à 9 milliards. Ce qu'ils ont fait pour les autoroutes, ils vont le faire pour ADP, c'est-à-dire puisqu'on veut rentabiliser vite, il va falloir augmenter les redevances aéroportuaires, il va falloir faire payer Air France plus, il va falloir ouvrir des créneaux, encore plus de créneaux pour augmenter la concurrence, peut-être dégrader l'investissement, peut-être dégrader la qualité.
Vous ne croyez pas à la régulation?
Alors attendez, Bruno Le Maire nous dit, oui mais vous inquiétez pas, on va faire un cahier des charges de privatisation où on va tout contrôler. S'il y a vraiment un risque important que l'investisseur privé fasse pas bien les choses, mais restons donc publics et faisons-les au lieu de faire de transmettre ça à un privé qu'on va contrôler. Il y a qu'à le faire puisqu'on est les premiers actionnaires publics. Il y a qu'à bien investir, il y a qu'à avoir une bonne gestion si on craint que le privé n'ait pas la bonne gestion. Ah, la loi, elle dit quoi? Au bout de 70 ans, les autoroutes, on va les rendre en 32. Au bout de 70 ans, on va récupérer la concession des aéroports de Paris. Et la loi dit, il va falloir indemniser ses actionnaires. Donc, il va falloir qu'on repaye à ses actionnaires la valeur d'ADP. Est-ce que dans 70 ans, on pense qu'Aéroports de Paris, ça va être complètement nul et qu'on va racheter ça une bouchée de pain? Ou est-ce qu'il y a des perspectives de développement extrêmement fortes?
Ah bah si on écoute le patron d'Aéroports de Paris, il y a des perspectives de développement extrêmement
fortes. On est le premier opérateur, ADP c'est le premier opérateur mondial, nous dit Augustin de Romanet, dans les Échos, le concurrent.
C'est le numéro un mondial de la gestion aéroportuaire. Est-ce que vraiment l'État a vocation à faire ce métier?
Et en plus, on a la progression des passagers. On a Aéroports de Paris qui a une particularité en Europe, qui a un terrain absolument incroyable. Donc, ça veut dire que dans les 70 ans qui viennent, a priori, Aéroports de Paris va valoir des montagnes d'argent. Donc, ils vont se faire beaucoup d'argent pendant 70 ans. Et au bout de 70 ans, il va falloir les indemniser. C'est pareil pour la Française des Jeux. Dans 25 ans, il faudra les indemniser. C'est tout gagnant pour le privé.
Alors, vous avez deux arguments économiques totalement différents sur le dossier Aéroports de Paris. Personne ne me parle de l'argument stratégique. Il faudrait que l'État reste en contrôle de ce point d'entrée des étrangers sur le sol français.
Absolument, mais ça le gouvernement a répondu. C'est pour ça que d'ailleurs c'est assez incompréhensible le discours notamment au Sénat de la droite là-dessus, parce qu'ils ont utilisé des arguments régaliens. Rien n'empêche bien sûr l'État de maintenir, et c'est ce qu'il compte faire, tous les droits de douane, tout ce qui concerne évidemment la police, d'accord, aux frontières, ça ne change strictement rien. Donc ça, c'est un argument complètement spécieux. C'est pour ça que je disais, c'est un peu les alcooliques anonymes qui ont privatisé pendant des années et qui aujourd'hui disent ah stop, non, parce que quand même. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu mystérieux dans la position qui, à mon avis, est plus politique et un peu opportuniste, parce qu'ils ont eux-mêmes fait référence à cette histoire des autoroutes qu'ils ont eux-mêmes privatisées. Donc je pense que la vraie raison, peut-être pour laquelle on peut peut-être se mettre d'accord sur les privatisations. Je parlais de cette histoire de noyau dur. Vous vous souvenez, les premières privatisations de Balladur, on avait mis en place des noyaux durs. Le vrai sujet, c'est de ne pas perdre le contrôle français, peut-être, de ces entreprises. Donc l'État, aujourd'hui, il a un rôle stratégique de stabilisateur du capital. Pas seulement pour ADP, vous appelez des monopoles qui, pour moi, n'en sont plus. Parce que les hubs européens, aujourd'hui, Paris est en concurrence avec Londres, avec Francfort. C'est pas un monopole, c'est pas vrai en Europe. Mais, en tout cas, aujourd'hui, l'État reste également propriétaire d'une partie de Renault. On le voit bien avec l'affaire Carlos Ghosn. Là, il y a un vrai enjeu. C'est l'État qui a un rôle de stratège et un rôle de stabilisateur. Est-ce que c'est à l'argent public de l'État de le faire? Ou est-ce qu'il faut favoriser la constitution de noyaux durs avec une sorte de fonds souverain à la française? Ça, c'est un débat sur lequel Bercy réfléchit, notamment l'Agence des participations de l'État, se dit, est-ce que on pourrait éventuellement favoriser la détention long terme, finalement, du capital des entreprises françaises par des capitaux français, peut-être issus on pense beaucoup à l'assurance vie, on pense beaucoup à la Caisse des dépôts, la BPI, BPI France, il y a peut-être moyen de changer de modèle d'actionnariat tout en gardant un actionnaire français, parce que sinon, toutes ces entreprises vont se faire racheter par les étrangers.
Vous voulez mettre notre épargne à la bourse, c'est ça.
Il y a même dans la loi Pacte, vous l'avez pas dit, Christian, il y a même un PEA, un plan d'épargne en action pour les jeunes. Vous voyez que le gouvernement veut faire revenir les Français vers la bourse.
Il y a quand même une autre vision, Christian Chavagneux, de la place que doit avoir l'État dans l'économie. Il y a ça. Donc, Philippe Mabille dit que c'est pas idéologique, c'est pragmatique. Vous êtes sur une autre ligne.
Aéroports de Paris et Engie, si vous voulez faire de la transition écologique, vous avez le transport et l'énergie. C'est à l'État d'engager vraiment. Le privé ne fera jamais la transition écologique. La Française des Jeux, c'est pareil. La Française des Jeux, on sait bien, Philippe l'a dit tout à l'heure.
Si le privé ne fait pas la transition écologique, on ne la fera jamais.
Attendez.
Il y a les jeux d'argent qui posent des problèmes particuliers en termes de blanchiment, de risque d'addiction, de fraude, de jeux pour les mineurs, etc. Donc on sait bien que là aussi, même si ce n'est pas la transition écolo, sur la Française des Jeux, on a besoin d'avoir un contrôle étatique. Alors, pareil que pour ADP, l'État nous dit, oui, mais je vais bien réguler tout ça. Sauf que aujourd'hui, la Française des Jeux n'est pas cotée en bourse. Donc si on veut privatiser la Française des Jeux, il va falloir d'abord la coter en bourse. Le gouvernement dit, on espère que ça vaudra 3 milliards, on va en vendre, je sais pas, on va garder 25%, 35%, je sais pas, donc on va récupérer 1 milliard, 1 milliard et demi. Sauf que pour attirer les investisseurs, qu'est-ce qu'il va falloir faire? va falloir que les investisseurs se disent c'est un bon placement bien rentable. Et pour que ce soit un bon placement bien rentable, il n'y a que deux choses à faire. Soit vous augmentez le taux de retour aux joueurs, c'est-à-dire ce que la part des mises qui revient vers les joueurs, et vous augmentez l'addiction, soit vous réduisez les impôts sur les jeux d'argent et à ce moment-là, vous perdez des recettes fiscales. Mais il n'y a que comme ça qu'on va attirer les investisseurs. Donc contrairement à ce que dit le gouvernement, il va falloir qu'ils prennent du recul par rapport à la régulation s'ils veulent attirer les investisseurs. Et ça, c'est vraiment pas bon.
Là, Philippe Mabille, je vous vois hocher de la tête. Vous êtes plutôt ça vous convainc pas non plus cette privatisation
d'Adler. Sur la française des jeux, on comprend pas très bien parce qu'il y a cette question de l'addiction qui est un vrai sujet. Mais là aussi, on pourrait considérer que la régulation, et il y aura un contrat de régulation économique pour la française des jeux, puisse effectivement fixer des règles.
Contrôler,
donc,
Philippe.
Ne pas croire que la régulation, l'État ait un rôle de régulateur, finalement, c'est ne pas faire confiance à ces autorités de régulation. Il y en a dans tous les domaines, et ça existe dans tous les pays du monde. Et aujourd'hui, la propriété peut être distingué de la régulation économique d'un secteur.
Faisons confiance à ce gouvernement, mais le prochain, une fois qu'on a privatisé la Française des Jeux, qui vaut pas grand-chose, le prochain qui va soit rendre plus d'argent aux joueurs, soit qui va baisser les taxes. Mais les gens qui ont acheté ça, ils vont faire d'énormes plus-values. C'est un transfert d'argent public vers l'argent privé. Et ça, c'est vraiment pourquoi est-ce qu'on fait ça? Honnêtement, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Soit, pourquoi est-ce qu'on distribue des sources de profit publics énormes à des investisseurs privés? Soit c'est des purs idéologues libéraux, ok? Soit c'est pire encore, on a tant que ce privé-là, quand il y aura les prochaines élections, il y aura un petit retour. Et si que ce soit la première ou la deuxième raison, c'est deux mauvaises raisons.
On peut aussi espérer qu'ils gèrent mieux que l'État.
Mais non, regardez les
chiffres. Le rendement actionnarial par l'État, c'est 3,5% contre 6,8% en moyenne pour le CAC 40.
C'est
on pourrait
ça
espérer
qu'on
que le privé
public.
Gère en mieux ses mais entreprises, non. Versera donc plus d'impôts à l'État,
regardez
et donc
l'eau.
Aux contribuables. Et ça serait finalement la façon de réconcilier et la droite et la gauche.
Allez, on se quitte sur ce dernier argument. Donc Philippe dit que le privé gère mieux.
La distribution d'eau en France, la distribution, le rail en Grande-Bretagne, qu'est-ce que ça fait? Moins d'investissement, dégradation de la qualité, hausse des prix. C'est ça qui nous attend.
Allez, fin du débat sur les privatisations. On sort de France, l'économie comme elle se passe ailleurs. Christian Chavagneux, la première économie européenne, c'est...
Je sais pas, l'Allemagne.
Ben voilà, puisque vous insistez, on y va en Allemagne.
Die deutsche Wirtschaft hat sich zum Ende des vergangenen Jahres nicht so gut entwickelt wie eigentlich erwartet und ist nur knapp einer Rezession entgangen.
Rezession, on l'attendait celui-là. Bonjour Ludovic Piétenu.
Bonjour Alexandra.
Ludovic, vous êtes le correspondant permanent de France Inter Outre-Rhin et donc rezession, l'Allemagne ne va plus si bien, le champion européen a frôlé cette récession, cette sortie de route fin 2018. La récession, c'est deux trimestres d'affilée où l'activité recule. Alors la nouvelle ce matin, elle peut surprendre, mais en fait c'est parce que la santé de l'économie allemande, elle était un peu sous le radar. Mais en fait, l'Allemagne est beaucoup plus fragile, Ludovic, depuis 6 mois, 1 an.
Oui, l'Allemagne traverse un passage à vide plus marqué, c'est vrai, et puis qui s'annonce aussi, dit-on, plus long que prévu. Ça va mal, en gros, et ça va durer. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le président de la Bundesbank, la banque centrale, la première puissance économique européenne, pâtit des tensions mondiales, des tensions commerciales déclenchées par l'Américain Donald Trump, sa politique protectionniste. L'Allemagne pâtit aussi des inquiétudes liées au possible Brexit. Le monde ne va pas bien et l'Allemagne ne fait pas exception. Ou plutôt, quand les deux géants que sont la Chine et les États-Unis s'affrontent, l'Allemagne regarde se battre désespérée les deux plus gros clients du Made in Germany. Sa superbe machine à exporter en prend un sérieux coup. On pense notamment à l'automobile, un secteur clé, et l'administration américaine n'en finit plus d'inquiéter les firmes allemandes, Alexandra, puisque hier encore, elle évoquait de probables nouvelles taxes douanières pour la bagnole. Ajoutez à cela des raisons propres à l'Allemagne. Cet été et cet automne, une très très forte sécheresse a grippé le cœur industriel du pays, toute la vallée du Rhin en gros, et puis les nouvelles normes anti-pollution, anti-diesel, vous savez, dans les centres-villes ont aussi fragilisé les constructeurs auto de façon plus générale. Tous les patrons allemands ont le moral dans les chaussettes.
Donc Ludovic, le champion européen en fait se met à courir à la vitesse de ses voisins, une petite vitesse moyenne. Qu'en disent plus globalement les Allemands ?
C'est un peu la fin de 10 années d'insouciance d'un point de vue économique ici dans le pays. Tout indique que la croissance va ralentir encore un peu plus cette année, sous les 1% pour les prévisions les plus optimistes, 0,7% en cas de Brexit. Les exportations allemandes vers le Royaume-Uni, dit-on, pourraient chuter de 10%. Bref, ça ne fait pas rêver. Le gouvernement Merkel recommence à parler d'économie, un sujet qu'il avait abandonné ces 10 dernières années quand tout allait bien. Là, il commence à reparler de nouvelles stratégies industrielles, d'envisager l'horizon en 2030. Mais ici, pas de quoi s'alarmer non plus. Le coup de mou n'a pas fait les gros titres de la presse. L'Allemagne a encore de beaux atouts. Le chômage est au plus bas, sous les 5%. Le niveau moyen des salaires augmente. Il est aussi question d'augmenter les pensions des retraités. Plus de travail, plus d'argent, ça donne une bonne consommation des ménages, une demande intérieure qui reste forte. C'est suffisant, Alexandra, pour ne pas faire chuter l'Allemagne et avec elle l'économie de la zone euro. Mais en 2018, retenons ça, le pays a fait son entrée dans le club des modestes.
Le club des modestes, Ludovic Piétenu, avec nous depuis Munich. Merci à vous, merci à nos débatteurs de ce samedi matin, Christian Chavagneux et Philippe Mabille. À venir, dans la prochaine demi-heure, c'est l'invité du MAGECO, Stéphane Israël, le PDG d'Ariane Espace. On va parler de cette nouvelle course à l'espace. Ce sera dans une dizaine de minutes, mais tout de suite, sortons du studio. Dernier week-end de solde. Alors, on ne voit plus vraiment de foule, de cohue dans les rayons. Les gilets jaunes n'expliquent pas tout. Ça fait en réalité 10 ans que le marché de l'habillement et du textile est en crise.
Magasin Célio. Monsieur, c'est sur les fermetures des magasins Célio. Bonjour monsieur, c'est sur les fermetures des magasins Célio.
Des fois les gens prennent pas.
On va s'en prendre des bâches.
Ah, il a pris. On se trouve devant le magasin Célio, rue Saint-Lazare à Paris, et on se trouve avec des salariés de Célio.
Oui, Kofi, délégué syndical de la CGT.
Et ce matin, là, c'est distribution de tracts, c'est ça, devant le magasin.
Voilà, devant le magasin de Avco Martin qui va fermer. D'ici la fin de l'année 2019.
Il y a combien de salariés qui sont concernés ?
Il y a 73 salariés qui sont concernés par ces fermetures de magasins.
73 salariés.
Oui, c'est énorme. 73 salariés, 16 magasins en tout qui ferment d'ici la fin de l'année 2019. C'est une première chez Célio, qui est autant de magasins qui ferment d'un coup. La direction nous dit que le bail, enfin que les propriétaires ne veulent plus louer à Célio. Ou pour un bail trop cher en fait. C'est, en tout cas, il nous donne des motifs de rentabilité du magasin.
On n'est pas les seuls. Hein. Il y a des Eram qui ferment aussi à droite à gauche. On est tous touchés. Hein. Enfin, je veux dire, toutes les enseignes en général. Hein. C'est très rare les enseignes qui vont se reposer sur leurs acquis. Maintenant, il faut être vraiment une très très grosse boîte. Et encore, même le groupe Vivarte a été impacté. Donc...
Ah merci. Soutien. Merci.
Vivarte, c'est le groupe qui a dû céder Naf, André et Koukaï. Autour de nous, il y a aussi les 160 boutiques Mime qui ont carrément disparu. Il y a des dizaines de boutiques Pinky, Jules et Brice qui ont baissé le rideau. Et chez New Look, ça ne va pas fort. Voilà quelques exemples. Depuis 2 ans, la litanie s'égrène en silence. Les magasins ferment ou changent de main. Pas tous d'ailleurs. Certains vont bien, les boutiques à petit prix, et celles du luxe accessible. En revanche, pour le milieu de gamme, c'est le grand chamboulement. L'adaptation dans la douleur à 10 ans de crise. Depuis 2008, le marché du textile et de l'habillement a perdu 15% de son chiffre d'affaires. Nous achetons moins, et ça n'est pas qu'une mauvaise passe. C'est une nouvelle façon de consommer la mode. Alors on retrouve notre reporter Anaël Verzo dans le quartier des grands magasins parisiens, devant la boutique Célio qui doit fermer. Les salariés continuent de distribuer leurs tracts.
Bonjour madame, c'est sur les fermetures des magasins Célio.
Merci.
Anne-Marie, vous travaillez chez Célio en tant que vendeuse ?
Je suis étalagiste, je travaille sur le magasin d'Opéra depuis 5 ans maintenant. Et je fais partie du magasin qui va bientôt fermer dans les mois à venir. Je suis assez attristée aujourd'hui. Ça fait 13 ans que je travaille chez Célio. On m'a annoncé la nouvelle en m'envoyant un courrier. C'est quand même des peurs aussi qui sont derrière ça. Moi, j'ai une famille, j'ai un crédit pour ma maison, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'on aurait aimé que la direction nous accorde au moins ne serait-ce qu'une demi-heure par salarié pour se poser et peut-être nous aider à vaincre ces peurs, ces angoisses qui sont liées à cette fermeture de magasin. Ça n'a pas été le cas, j'en suis désolée.
On vous a parlé de problèmes financiers, de problèmes
on nous en a parlé.
Rentabilité.
Voilà, on nous en a parlé, mais c'est tout le temps à demi-mot en fait.
Enfin... Il y a des propositions de reclassement ou pas ?
Pour le moment, non. On nous a juste dit que le magasin allait fermer à la fin de l'année. Pour l'instant, on nous a demandé de faire plusieurs choix de magasin. On n'en sait pas plus.
La grande inconnue.
Voilà, c'est ça. On ne sait pas vers quoi on va. On n'a pas d'informations et j'en suis navrée. Voilà.
Nous avons contacté la direction de Célio qui n'a pas souhaité répondre à nos questions. Ce n'est donc pas la seule enseigne qui ferme ses magasins. À l'Institut français de la mode, Gilda Mainvielle observe le phénomène. Est-ce qu'on n'a pas trop produit, trop cherché à vendre ? Est-ce qu'on n'a pas ouvert trop de magasins en France finalement ?
Alors c'est clair que les observations que nous pouvons faire à l'IFM vont en effet dans ce sens, c'est-à-dire que il y a eu toute une période où la consommation était en repli et pendant ce temps-là, les distributeurs ont continué en fait à ouvrir des points de vente pour essayer de compenser ce repli de la consommation et je pense que effectivement, il y a un décalage important entre l'offre et la demande du coup et les distributeurs ont sans doute des parcs de magasins qui sont trop importants. Nous on situe le point d'inflexion en quelque sorte à 2015, c'est-à-dire qu'à partir de 2015, beaucoup de distributeurs ont dû fermer des points de vente qui étaient en effet trop nombreux par rapport au marché. Donc il y a eu un ajustement qui a dû être fait en effet.
Ça fait 10 ans qu'on observe une baisse de la consommation des vêtements. Comment vous expliquez ce recul ? Le pouvoir d'achat ?
La question du pouvoir d'achat est centrale. La décennie qui a précédé l'année 2007, l'évolution du pouvoir d'achat par unité de consommation, telle que l'INSEE le mesure, progressait en moyenne annuelle de 2% chaque année. La décennie suivante, donc après 2007, il y a une progression de 0,1%. Et ça a beaucoup impacté les fondamentaux de la consommation et bien sûr les fondamentaux de la consommation de mode.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi un développement d'une consommation plus éthique ? On achète moins en quantité, mais on achète mieux ?
C'est clair qu'une partie des consommateurs a été très choquée, très sensibilisée par un événement majeur qui est intervenu dans le paysage de la mode. C'est le drame au Bangladesh du Rana Plaza, l'effondrement de cet immeuble dans lequel était confectionné un certain nombre de vêtements pour les grandes marques occidentales. Et je pense qu'il y a eu un avant et un après Rana Plaza. Et les attentes aujourd'hui des consommateurs en matière de mode sont différentes. Les consommateurs cherchent davantage de valeur. Ils demandent aux acteurs, aux entreprises de pratiquer une mode responsable. Et ça, c'est une tendance structurante très importante. Et en effet, beaucoup de consommateurs se réorientent vers le moins mais mieux. C'est-à-dire qu'on va acheter sans doute moins fréquemment, mais on va chercher des vêtements qui sont de meilleure qualité. Et ça va tout à fait dans le sens de davantage de développement durable.
Donc il y aurait 3 raisons qui expliquent cette vague de fermeture de magasins. Des erreurs de stratégie, une prise de conscience éthique, mais surtout, Gilda Mainviel vient de le dire, il y a le problème du pouvoir d'achat. Dans le magasin Célio du quartier de l'Opéra, au cœur de Paris, Anne-Marie, l'étalagiste, le sait bien.
Solde jusqu'à moins 70%. moreoncelio.com.
C'est la dernière des marques ?
Oui, voilà, c'est ça. On arrive à la fin des soldes. Et après, souvent, ça continue. Hein. C'est juste qu'on ne met plus de pourcentage, on met des prix ronds pour pouvoir continuer de liquider, quoi.
Vous achetez par exemple régulièrement des vêtements ?
Quand même, ouais. Bah, j'ai 2 enfants, mon mari. Ouais, on est bien obligé de renouveler la garde-robe des enfants, surtout les garçons. Hein, ça tombe souvent. Il y a des trous partout. Mais
vous avez suffisamment d'espace chez vous pour ranger tout ça ?
Ouais, moi ouais, j'ai un F4 avec un petit jardin, ça va.
C'est souvent dans les raisons invoquées sur le fait que visiblement on achète un peu moins de vêtements qu'il y a une dizaine d'années. Ce serait aussi parce qu'on n'a plus beaucoup de place dans les placards.
C'est surtout le porte-monnaie. Hein. On la trouve toujours la place.
Hein. Vous me disiez, c'est surtout le pouvoir d'achat.
Oui, c'est ça. On est en plein dedans. Hein. La crise des gilets jaunes, c'est pas pour rien. Hein. C'est...
Vous vivez avec combien par mois, vous, Anne-Marie ?
Je suis en 80%, donc je suis à 1180 euros par mois. Net, ouais.
Et votre conjoint ?
Mon conjoint, il est artisan taxi. Donc,
Du coup, ça vous fait combien à deux ?
À peu près dans les moins de 3000 euros. Le crédit de la maison à payer, la plaque de taxi, on sert, mais...
Et le budget consacré aux vêtements, il est de combien d'après vous par mois ? Si vous faites une moyenne sur l'année
Ouais, il n'est pas folichon. Hein.
Il n'est pas folichon.
Bah, pour les enfants, en priorité, et puis s'il reste un peu pour nous, tant mieux, mais priorité les enfants, ouais, c'est... J'essaye d'acheter des vêtements pas trop chers pendant les soldes, ce genre de choses.
Un pull, par exemple, pour votre fils qui a 4 ans, 4 ans et demi,
ouais.
Vous le payez combien à peu près ? Vous êtes plutôt à 70, à 20
Un pull ?
Ouais.
Ah non, un pull, c'est pour lui, un petit de 4 ans, 9 euros, je pense que c'est amplement suffisant. Zara qui habille, voilà, les petits anciens qui font du prix. Mais Jacadie, petit bateau, non, j'ai pas les moyens. Entre acheter un pull à petit bateau ou Jacadie à mon fils et partir en vacances à la fin de l'année, il n'y a pas de petites économies, c'est ça.
Dépenser moins, mais mieux. Les Français se sont bel et bien installés dans un nouveau mode de consommation et sans doute dans un nouveau rapport à leurs vêtements. En tout cas, c'est l'avis de Michel Rességuier qui, ces derniers mois, a restructuré des enseignes comme Pimki, Jules, Brice ou encore Bisby.
le rapport qu'on a à l'habillement aujourd'hui n'est pas du tout le même que celui qu'on avait il y a 20 ou 30 ans. Il y a une simplification au cours de ces dernières années qui fait que même la notion de marque s'est beaucoup estompée. Effectivement, vous avez raison de préciser que dans le très haut de gamme, ça demeure valable. Mais dans le moyen de gamme, les gens ne sont plus tellement intéressés par ça. Et d'ailleurs, vous pouvez constater que quand vous voyez quelqu'un aujourd'hui dans la rue, vous ne pouvez pas, à sa tenue vestimentaire, l'identifier sociologiquement. Donc l'habillement a perdu sa dimension identitaire. Alors, il faut rajouter un deuxième phénomène de complexification du marché, qui est une attente, ce qu'on appelle une injonction paradoxale de la clientèle. La clientèle, d'une part, demande à ce que l'habillement lui coûte de moins en moins cher, parce qu'elle n'a pas envie d'y mettre du sens, de l'énergie, autant qu'elle le faisait par le passé. Donc, c'est une commodity, je m'habille pour être confortable, et je ne veux pas y mettre trop d'argent. Mais en même temps, j'ai un souci environnemental, sociétal, et donc je ne veux pas que les chaussures ou les vêtements que j'achète soient fabriqués par des petits-enfants de 10 ans, exploités dans des conditions inadmissibles au Bangladesh, etc. Voilà. Mais la réalité, c'est qu'évidemment, cette deuxième attente, elle fait augmenter le prix du vêtement que vous achetez, quoi. Donc il y a une injonction paradoxale de la clientèle à laquelle nous devons répondre, mais c'est pas si simple, à la fois de baisser le coût et d'améliorer la qualité et d'améliorer aussi les conditions de production des produits que nous vendons.
Est-ce qu'il n'y a pas un problème de concurrence aussi avec Internet? Maintenant, on achète de plus en plus sur Internet.
Ouais, alors ça, moi, je pense que c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Toutes les marques sont confrontées à Internet. Donc, pourquoi certaines s'en sortiraient-elles bien et d'autres moins bien? C'est pas du tout le sujet.
Et le sujet, c'est la déconsommation, adaptation douloureuse pour les magasins de vêtements. C'était le reportage d'Anaël Verzo.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et dans l'espace, comme dans la mode, beaucoup de concurrence. Le PDG d'Ariane Espace vient de s'asseoir dans le studio 521. Bonjour Stéphane Israël.
Bonjour.
Tout à l'heure, on parlait des privatisations dans le débat, de ce fonds pour l'innovation. Est-ce que ça vous intéresse, vous, à Ariane Espace?
Alors, ce serait effectivement un fonds pour l'innovation de rupture et ça nous intéresse beaucoup parce que, comme nous allons en parler, la course à l'espace s'accélère, l'innovation s'accélère. Il faut absolument que la France et les Européens se dotent d'une capacité d'innovation de rupture. L'innovation de rupture, ça veut dire que ça peut réussir, ça peut ne pas fonctionner. C'est un peu le modèle de l'agence américaine, la DARPA. Vous avez une toute petite équipe qui travaille sur des projets. Certains vont réussir, certains ne vont pas réussir. Il faudrait qu'en France et en Europe, on se dote des mêmes capacités pour accélérer notre innovation.
Donc il faudrait plus d'argent public là-dessus?
Je ne demande pas toujours plus d'argent public, mais en tous les cas, qu'il y ait de l'argent public français et européen, comme l'a souhaité le ministre de l'économie Bruno Le Maire, pour accélérer l'innovation, est une excellente initiative.
Stéphane Israël, vous dites que nous sommes en train de vivre une nouvelle course à l'espace. Comment ça se traduit cette nouvelle course? Plus de concurrence, les Américains, les Chinois?
Ça se traduit de deux façons. Il y a d'abord de plus en plus une volonté d'accès à l'espace. La Chine a fait 39 lancements l'an dernier. Elle est devenue la première puissance en termes de lancements l'an dernier. Les Américains en ont fait 34. Il y a de plus en plus d'acteurs, des acteurs privés mais fortement subventionnés, comme notre compétiteur SpaceX. Et puis, s'agissant des missions, il y a une nouvelle appétence pour l'espace. Pourquoi? Parce que l'espace va permettre de faire un certain nombre de choses essentielles au XXIe siècle. Le rêve, l'espoir, c'est tout l'espace de la conquête, de l'exploration. La connectivité, l'espace, les satellites vont permettre de connecter l'ensemble des individus de la planète. La préservation de la planète, c'est depuis l'espace qu'on peut observer un certain nombre de variables climatiques essentielles. Et puis aussi la défense et la sécurité. Donc vous avez de plus en plus d'acteurs et vous avez aussi des missions qui répondent parfaitement aux grands défis du XXIe siècle.
Et si on veut évaluer les nouveaux appétits économiques, vous dites la connectivité. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que la voiture autonome, ça va se passer avec des satellites, Internet partout sur la planète, c'est pas encore possible, mais on va avoir des constellations, c'est ça?
On va avoir effectivement des constellations de satellites, soit dans des orbites proches de la Terre, soit dans des orbites plus lointaines. Je vous donne deux exemples. Nous allons le 26 février lancer le premier lancement d'une grande constellation qui s'appelle OneWeb, qui vise à avoir plusieurs centaines de satellites autour de la Terre. Et fin mars, pour un autre client qui est SES, nous allons continuer de lancer une constellation plus modeste, un peu plus lointaine, plus modeste en taille mais très importante en termes d'application. Et puis il y a encore des satellites plus lointains qui permettent la connectivité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plusieurs façons pour les satellites d'apporter cette connectivité et ça va se faire en lien avec des réseaux terrestres. Donc vous aurez de plus en plus une complémentarité des solutions terrestres et des solutions satellitaires. Et effectivement, avec la voiture autonome, avec l'Internet dans les avions, avec la volonté d'avoir Internet dans des territoires où le satellite est une meilleure solution que les solutions terrestres, nous allons de plus en plus apporter aux citoyens l'Internet par les satellites.
Donc beaucoup de perspectives, un marché en croissance exponentielle, si on vous écoute bien. Quand votre maison mère, Ariane Group, dit « bah oui, mais dans les 5 ans, on va supprimer 2300 emplois », comment comprendre? Ça traduit de l'inquiétude, ça, pourtant?
Ça ne traduit pas de l'inquiétude, ça traduit une mobilisation face à une concurrence accrue. Nous devons, depuis quelques années, affronter des lanceurs américains qui présentent une spécificité. Ils ont un marché domestique qui n'est pas accessible aux lanceurs européens. Ce sont tous les lancements institutionnels pour l'État américain. Et ce marché domestique est à la fois très important en volume, il y a énormément de missions, et bien payé en prix. Et avec cette capacité, les lanceurs américains vont aller sur le marché concurrentiel et proposer parfois des prix très attractifs. Nous devons répondre...
Donc il y a deux sortes de missions, il faut bien comprendre. Il y a la mission pour ce que vous appelez, vous, les institutionnels, l'État, et puis il y a les missions commerciales pour les...
Pour les grands opérateurs, voilà, comme SES, comme Eutelsat, comme Intelsat. Oui. Et nous affrontons donc cette situation tout à fait nouvelle, car ces lanceurs auparavant se concentraient sur leur marché domestique, ils ne travaillaient que pour l'État américain, et maintenant ils viennent à l'export. Eh bien, nous devons répondre à cette situation, et c'est tout le projet d'Ariane 6. Ariane 6 sera un lanceur plus compétitif, et pour faire Ariane 6 dans les conditions de compétitivité que nous nous sommes fixées, nous avons besoin effectivement de déployer le plan que vous avez évoqué.
Alors, à aujourd'hui, on a Ariane 5, il y avait encore il y a quelques jours,
5 début, février.
Le 5 février, le lancement d'Ariane 5, et en effet, vous allez aller sur Ariane 6, un nouveau lanceur, en 2020, la Cour des comptes vient de vous dire, oh là là, il est compétitif, mais ça va pas être compétitif longtemps. Vous êtes d'accord, Stéphane?
Alors, d'abord, il faut pas faire dire à ce rapport ce qu'il ne dit pas. Ce rapport dit des choses très importantes. Il dit d'abord qu'il faut que les Européens achètent massivement ce lanceur, parce que, comme je venais de vous le dire, ce sera un élément de la compétitivité. Il faut absolument que les institutions européennes, la Commission européenne, l'Agence spatiale européenne, les États achètent ce lanceur pour que nous soyons à armes plus égales avec les États-Unis. Nous avons besoin de ce marché européen constitué.
Vous voulez dire qu'aujourd'hui, par exemple, un pays peut décider d'aller lancer avec SpaceX?
Je veux dire qu'aujourd'hui, on progresse dans l'idée que les Européens achètent massivement le lanceur européen. On a fait beaucoup de progrès en ce sens et on va y arriver avec Ariane 6 et sa petite sœur Vega. Et après, la Cour des comptes dit une chose avec laquelle nous sommes parfaitement en accord, elle est de dire qu'il va falloir faire évoluer Ariane 6 parce que la compétition l'exige. Et ça tombe très bien parce que nous réfléchissons déjà aux évolutions d'Ariane 6.
Vous parlez de technologie, là.
Des évolutions technologiques, effectivement. Nous réfléchissons à des évolutions de moteurs, des évolutions de matériaux. Et il pourrait, si cela est justifié par la concurrence, y avoir dès 2025 une évolution d'Ariane 6. Ça pourrait s'appeler Ariane 6 Evolution, qui serait encore moins cher qu'Ariane 6. Donc nous nous retrouvons parfaitement dans les préconisations de la Cour des comptes.
Ce que dit la Cour des comptes, c'est qu'en fait, nous avons raté, nous, Européens, la marche technologique du réutilisable. SpaceX, il lance son lanceur et il récupère un petit bout. Et nous, en fait, Ariane 5, on jette tout, c'est ça?
Alors, on n'a pas du tout raté cette marche parce qu'on évolue dans un contexte de marché qui n'est pas le même. Pour donner un sens à la réutilisation, il faut avoir énormément de missions à faire. Soit pour vous-même, et c'est l'ambition de SpaceX qui veut déployer sa propre constellation, il veut déployer 4000 satellites, donc on comprend bien que pour cela, il a besoin d'un lanceur réutilisable, soit pour le gouvernement américain qui a beaucoup de missions. Nous, avec Ariane 6, on veut déployer des satellites pour l'Europe qui a tout de même moins de missions, et nous n'avons pas l'ambition de déployer notre propre constellation, et Ariane 6 va parfaitement répondre
à la
demande.
Mais on va faire du réutilisable ?
Alors, on fera le moment venu, si c'est justifié, du réutilisable. On travaille à un moteur qui aurait cette capacité, qui s'appelle le Prometheus, qui est pensé par Ariane Group et le CNES dans un contexte européen. Si c'est justifié, nous irons vers cela. Mais la première marche, celle qui va déterminer toute la suite de l'histoire, elle s'appelle Ariane 6 et les clients en veulent, ils la demandent.
Stéphane Israël, on a toujours ce même débat en réalité. On comprend que vous ne fonctionnez pas avec les mêmes règles que les Américains, qui sont donc soutenus, que SpaceX, qui est soutenu par son État, par des commandes. Est-ce que l'Europe sait faire naître et sait faire évoluer ses champions européens? Est-ce qu'elle a cette capacité-là ou est-ce qu'en fait on a toujours des chaussures plus lourdes que les autres pour courir?
Non, moi je ne suis pas dans l'Europe bashing. Nous sommes l'expression d'un grand projet européen. Nous sommes fondamentalement un partenariat public-privé et le système Ariane a été pensé par l'Europe pour lui préserver son autonomie d'accès à l'espace. Nous travaillons tous les jours avec l'Agence spatiale européenne. les choses évoluent et l'Europe évolue avec nous et l'Europe s'organise pour que nous soyons plus compétitifs. Mais je ne tiens pas à dire ceci ou cela qui serait négatif. Nous sommes avant tout l'expression d'un grand projet européen et effectivement, nous allons faire évoluer nos règles pour être toujours plus compétitifs.
À la dernière question, par exemple, Ariane 6, elle va être fabriquée encore dans 13 pays parce que tous ceux qui veulent, qui mettent un petit peu d'argent au pot commun, veulent avoir des emplois, des usines. Ça, c'est franchement anti-performant.
Alors là encore, je crois qu'il faut aller un petit peu plus loin dans l'analyse. Le fait qu'elle soit fabriquée dans 13 pays, ça attire des financements et ça c'est quand même une qualité. Ça peut avoir des surcoûts et ça fait partie des choses dont on doit discuter effectivement avec les États européens pour trouver la meilleure façon d'affronter la concurrence et nos compétiteurs.
L'année 2019, ça sera à l'automne, ça sera des décisions politiques ?
Une grande conférence de l'Agence spatiale européenne pour décider de la feuille de route d'Ariane et de Vega entre 2020 et 2030. Et on est sûr qu'on va réussir cette conférence.
Quelle confiance ! Stéphane Israël, le PDG d'Ariane Espace, merci d'avoir été sur France Inter.
Merci beaucoup.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot. Sandrine, on a une question de Patrick sur l'assurance chômage. Les organisations patronales ont proposé de verser une prime aux salariés qui enchaînent les CDD d'usage. Alors pourquoi eux ? Qu'est-ce qu'ils ont de si spécial, ces CDD d'usage ?
Oui, les organisations patronales ont avancé l'idée d'accorder une sorte de prime de précarité aux salariés qui cumuleraient 4 contrats d'usage. Ce sont des CDD très particuliers. Ils sont nés il y a tout juste 37 ans. Par une ordonnance. À l'époque, il s'agissait de répondre aux besoins spécifiques, par nature saisonniers, de certaines branches professionnelles. Un bureau d'études recrute un enquêteur pour une mission, une télé ou une radio embauche un technicien pour une émission. Impossible de trouver plus souple. Contrairement à un CDD classique, on peut le renouveler autant de fois qu'on veut. Il n'y a pas de délai de carence à respecter entre deux missions et surtout, il ne donne pas droit à la prime de 10% du salaire en fin de contrat. Je vous conseille, Patrick, la lecture d'un rapport de l'inspection général des affaires sociales sur le sujet.
Allez-y, Patrick.
Ça vaut 10 rapports de la Cour des comptes. Le constat est accablant. Le contrat d'usage est un outil totalement déréglementé. Il n'a aucun équivalent à l'étranger, si ce n'est au Luxembourg, nous dit le rapport. 30 secteurs d'activité peuvent utiliser ce contrat sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et la liste n'a pas été actualisé depuis 1982. Si on peut comprendre que l'hôtellerie-restauration ait besoin d'extra, c'est déjà plus difficile pour le secteur du déménagement ou de l'enseignement. Le stockage de la viande peut recourir au contrat d'usage, mais pas le stockage de poissons. Pourquoi ? On ne sait pas. Ce CDD vit sa vie hors contrôle.
Sandrine, du coup, est-ce que ça serait une bonne idée de verser cette prime pour limiter les contrats courts ?
Ce n'est pas certain. D'abord parce qu'un employeur pourrait décider de recruter quelqu'un d'autre au bout de 3 CDD d'usage pour ne pas payer la prime. Ensuite, parce que c'est une façon de gérer la précarité en bout de chaîne, pas de s'intéresser aux raisons de fond pour lesquelles les employeurs utilisent ces contrats courts. Alors bien sûr, le contrat d'usage cumule les aberrations, il concerne plus d'un million de salariés. Un quart de ces CDD durent moins d'un jour. Une technicienne vidéo a pu enchaîner 589 contrats d'usage en 9 ans dans une société de production télévisuelle. La CFDT rappelle pourtant que les contrats d'usage ne représentent que 10% des 34 millions de contrats de moins d'un mois qui sont signés tous les ans. Les syndicats de salariés qui négocient sur l'assurance chômage veulent tous que le patronat intègre dans ses propositions un vrai bonus-malus sur l'ensemble des contrats courts. Patrick, la suite du feuilleton est attendue pour mardi.
Mardi, rendez-vous, et on en parlera samedi alors. Il est 10h sur France Inter, c'était Sandrine Foulon, ma vie au boulot.